donner l'existence, comme on a dit, mais tout ça, c'était sous condition, c'est-à-dire à condition qu'on ne désobéisse pas aux lois qu'Hachem a mises dans le monde. Mais si on désobéit, alors ce nom divin n'a pas la vie. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que les Bnei Israël, quand ils ont fauté, ils ont été condamnés à mort, c'est-à-dire le nom divin ne fonctionnait plus pour leur donner la vie. Donc quand Akadosh Baruch Hu a accepté de donner les deuxièmes lokot, en même temps, il est revenu sur cette condamnation à mort. Il nous a donné un deuxième nom divin. C'est le même nom divin. De même que le même lokot. Et ce deuxième nom divin, il fonctionne même quand on faute. C'est-à-dire, il est, si vous voulez, un nom divin qui marche même après la faute. Ça, c'est la nouveauté. Ensuite, Kadosh Baruch Hu nous a donné un mode de prière après la faute. Parce que là, à partir du moment où on a fauté, de quoi est-ce qu'on se présente devant Hachem et qu'on demande quoi que ce soit? Alors effectivement, Kadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu une nouvelle façon de prier. Et il lui a dit, lorsque le peuple d'Israël fautera, alors tu désigneras quelqu'un qui fonctionne comme un shliach tzibour, si vous voulez, et qui récitera les shlosh esrei midot. Fameuses 13 midot de tendresse, le Rachamim. Hachem, Hachem, Kel, Rachum, Vechanun. Vous voyez que dans ces 13 midot, il y a deux fois le nom d'Hachem. C'est ce dont on a parlé juste avant de parler de la. C'est Hachem, Kodem, Achet. Et un thème, la harachet. Ça, ça fait partie de Shlosh Esrei Midot. Alors là, c'est tout à fait paradoxal parce qu'Hachem dit, si le clan d'Israël faute, alors voilà ce qu'il faut faire. Tu désigneras ce Shlosh Esrei Midot qui va réciter ces Shlosh Esrei Midot et moi, je pardonnerai. Et ça apparaît tout à fait extraordinaire et même un petit peu gênant. On a l'impression que c'est quoi, une formule magique, c'est quoi, voilà, il y a quelque chose à réciter et puis ensuite, voilà, on est pardonné. Alors, bien sûr, l'idée générale, c'est que ça ne peut fonctionner que s'il y a eu une tchouba. C'est-à-dire que si les Bnei Israël regrettent la faute qui a été commise, parce que s'ils persistent, eh bien évidemment ça ne va pas marcher. Hachem accepte, d'une certaine manière, on demande pardon. Et ça, c'est la source. Ce jour où on a reçu les lochot, mais où on a aussi le double shem, et la tfila, ce jour-là est plus kippour. Un jour extraordinaire, un jour de pardon, il y a même une chita, chita de Rebbe, qui dit que même si on ne fait rien du tout ce jour-là, le jour lui-même apporte la kapara. Bon, la halakha n'est pas comme ça. La halakha est qu'on ne peut pas se contenter de ne rien faire. Pour avoir une kapara, il faut faire tshuva. Alors, ce travail de tshuva, pour certains c'est une mitzvah, pour d'autres c'est une évidence, parce que évidemment qu'on a l'obligation de faire ce qu'Hachem nous a obligé à faire. Et donc, la tshuva, il faut essayer de voir qu'est-ce que c'est exactement. La tshuva, c'est toujours considéré comme un retour. Un retour soi-même, retour à ses vraies valeurs. Le retour veut dire qu'on court avec ce qu'on a fait de main. Et on revient, on voudrait revenir en arrière. C'est-à-dire se retrouver, en fait, avant la faute. Comme si on pouvait maintenant vivre ce qu'on a vécu concrètement en faisant la faute, mais on va le revivre sans faire la faute. C'est en vérité la tour. Se retrouver dans la même situation et ne pas se casser la faute. L'autre terme, c'est regretter ce qui a été fait et prendre des mesures pour ne pas retomber dans ces ornières-là. Et Icaradine, c'est ça la tshuva. C'est ça qui est demandé. Rachamim ont ajouté des choses, ont ajouté le Tanit, Bepri, etc. Mais l'essentiel, c'est vraiment la Harata et la Kabbalah. C'est-à-dire le regret, la décision de ne plus retomber. Les entretiens de la tshuva, c'est justement ceci. Rata ou Kabbalah là-bas. C'est joli de dire que voilà, on peut faire tshuva, mais depuis quand est-ce que ça marche? Que je regrette quelque chose. Il y a une réalité de la faute. Il a cassé quelque chose, si vous voulez. Spirituellement, on fait bien ce qui a tué B et ensuite qui fait tshuva. Et ce qui est toujours, en fait, ça serait. Donc, on va. Il y a l'irréversible là. Alors, c'est quoi qui est réversible? L'irréversible, c'est que Hachem ne nous montre pas en quelque sorte la compte. C'est-à-dire que, au lieu que ce soit A qui a tué B, ce sera X qui a tué B, on ne sait plus qui est X. Il n'y a plus personne qui répond signalement de ce X. Qu'est-ce que tu vois, on est un autre, comme dira pas. Et il reste quand même à comprendre comment ça fonctionne. Alors, on a déjà vu que la tshuva, c'est quelque chose qui a été créé par Hachem avant la création du monde. En d'autres termes, le monde a été créé dans un environnement de tshuva. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que nos actes ne sont pas définitifs. Hachem a créé un monde avec des hommes qui vont agir, mais leurs actes ne sont pas définitifs. Ce n'est pas quelque chose de totalement... Quand vous signez un contrat, parfois c'est marqué « je persiste et je signe ». Pourquoi est-ce que je dois persister ? J'ai déjà dit que j'étais d'accord. C'est comme si on disait « ok, ce que tu as dit là, c'est vrai, tu t'engages, mais pas complètement. » Donc maintenant, on veut être sûr que tu t'engages vraiment complètement. Insister. À ce moment-là, la signature est vraiment. D'une certaine manière, la tshuva, c'est la possibilité de dire, mais finalement, mon acte, je n'ai plus d'accord avec celui que j'étais lorsque j'ai agi de cette manière-là. Moi, aujourd'hui, dans cette même situation, j'agirai différemment. Et ça marche parce que vous créez le monde de cette manière-là. Alors, bien entendu, ça ne peut pas constituer simplement la ration, c'est pas tout simple. Ça doit être une réalité. Que ce soit sain. Et c'est devant Hachem, donc on ne peut pas vous obliger. Donc, c'est ce qui est nécessaire, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, pour que ce qu'Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, de la façon dont il faut faire les choses, peut marcher. Alors, un peu plus concrètement, comment est-ce que je prends de la distance par rapport à ce que j'ai fait de mauvais, finalement? Ok, je regrette, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'assume plus, donc je prends la distance avec celui que j'étais lorsque j'ai fait cette faute. Pour prendre de la distance avec quelque chose, il faut concrètement mettre la chose devant soi et s'en éloigner. Alors, la mise devant soi de ce qui a été fait, une mauvaise chose, ça se fait par le biais du vidouille. Le vidouille, c'est une confession, et bien sûr, c'est une confession de l'être humain devant Hachem. C'est pas du tout une confession devant un être humain. D'ailleurs, on prend des mots. Personne n'entend cette confession. Aucun autre humain n'entend cette confession. Alors, il faut le mettre à l'extérieur. C'est ça, là. Il faut parler, faut dire cette chose qu'on a faite et qu'il ne devait pas faire. Pour pouvoir prendre de la distance. Si vous voulez, le chesed d'Hachem, c'est qu'en réalité, on n'a pas vraiment besoin de détailler la faute. Il faut reconnaître « j'ai fauté ». Je prends la distance, là, je nage plus tout ce que j'ai fait là. Dans les fautes qu'on peut faire, il y a deux sortes de fautes. Il y a des fautes qui sont Ben Adam Lamakom et d'autres Ben Adam Lachamero. Les fautes commises Ben Adam Lamakom, Hachem, voilà, il faut regretter et prendre des mesures, comme on l'a dit, ça suffit. Les fautes qui ont été commises à l'égard de quelqu'un d'autre, Ben Adam de Havero, ça ne suffit pas de se tenir devant Hachem et dire je regrette vraiment ce sale coup que je lui ai fait là, cette chose interdite. C'est un journalier, je ne l'ai pas payé le jour même, etc. Je regrette, ça ne suffit pas. Il faut régler le problème avec la personne. La personne qui a été lésée, qui a subi un dommage, il faut obtenir son pardon. Et c'est une condition nécessaire. Du coup, ça pose le problème. Comment on fait pour obtenir le pardon en question? Alors, a priori, il fallait demander pardon. Il ne peut pas se faire. Est-ce que ça, on ne doit pas faire? On considère qu'on a fait ce qu'il fallait. Si la personne continue à pardonner, c'est, comme le Rambam le dit, c'est en fait de la cruauté. Bien entendu, il ne s'agit pas de venir devant quelqu'un et lui dire voilà, je te demande pardon de ce que je t'ai fait, mais en fait, tu vois bien que je ne demande pas vraiment pardon. Ça ne marche pas. Il s'agit d'être sincère, il s'agit de donner au tiers à comprendre qu'on est vraiment dans la situation de demander pardon, demande vraiment pardon. Donc, il se va pour celui auquel demande pardon de ne pas être cruel et d'accorder. Là, il faut ajouter que celui qui accorde le pardon, il doit savoir que peut dire je te pardonne si tu ne pardonnes pas vraiment. S'il dit je te pardonne et qu'on pardonne, donc il n'a pas obtenu le pardon. Donc lui, il croit que voilà, c'est réglé, j'ai obtenu le pardon de Ben Adam Lachavero. Je peux maintenant demander pardon à Hachem, et Hachem ne lui pardonnera pas parce qu'il n'a pas vraiment obtenu le pardon. Donc celui qui l'a trompé lui a dit oh, « je te pardonne » mais il ne lui pardonne pas. Il lui a causé un véritable dommage. Et donc, il faut faire attention, c'est une avéra. Si on n'est pas capable de pardonner, il faut dire « je ne suis pas capable de te pardonner ». Donc, de même que celui-là doit être sincère, celui qui demande pardon, que ce soit Ben Adam la Havero, mais aussi Ben Adam la Makom, dans son vidouille, il doit être sincère. Il y a dans les Al-Khet, il y a Al-Khet, Shechatan Ul-Fanecha, le vidouille-pé. C'est un vidouille par la bouche. Évidemment, le vidouille, c'est toujours par la bouche, mais ça veut dire c'était un vidouille qui était que du bout des lèvres. Mais je ne me suis pas du tout. Je ne m'exprime pas vraiment. C'est-à-dire, j'ai demandé pardon Hachem, mais en fait, je n'ai pas du tout changé d'avis, je n'ai pas vraiment fait tchouva. Donc il faut savoir que c'est des choses sérieuses. On peut se demander si cette idée de demander pardon et puis de demander pardon à Hachem, est-ce que c'est vraiment lié avec le fait que, comme vous savez, Rosh Hashanah est appelé un jour de jugement? Mais ce n'est pas écrit dans la Torah que Rosh Hashanah, c'est un jour de jugement. Dans la Mishnah, on dit qu'on est jugé. Encore que c'est dire d'une drôle de façon, mais disons que c'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est un ajout de la Mishnah, si on peut parler comme ça. La Torah, c'est Balpé. Ça veut dire que tout ce processus n'est pas seulement pour être Zoché Bedin, pour avoir un jugement favorable et scellé à Yom Kippour, etc. Et la Tchouva s'impose même s'il n'y a pas de jugement en tant que tel. La tchouva, ça veut dire prendre conscience que dans un monde dans lequel il y a des règles, et je n'obéis pas, je n'ai pas obéi à la règle, donc il faut faire tchouva. Parce que c'est un principe. Et, par principe, je dois obéir à la règle qui m'est donnée, même si je ne suis pas jugé. On a presque l'impression que les Chachamim, en introduisant toutes ces notions de jugement, ils ont voulu nous aider, parce que pour nous, c'est plus facile de réfléchir en termes de jugement plutôt que de réfléchir en termes de principe. Mais en réalité, c'est sûr que même si on n'est pas jugé, même si on n'était pas jugé, on devrait faire tchouva quand même. C'est quelque chose d'important. C'est pas simplement pour s'en sortir au jour du jugement. Mais encore une fois, je pense que c'est fait pour nous aider, cette idée de jugement. On raconte qu'un élève qui est à Bethmé, c'est un des grands Baalémoutards de la génération précédente. Les rêves Yom Kippour, dans certains, dans les Tivoles, etc., on passe vers chacun quasiment et on lui demande Mechila. Bon, alors. Comme toujours, quand les choses deviennent courantes, alors souvent, c'est pas pris avec suffisamment de sérieux. En tout cas, lui, il est allé, cet élève, il est allé chez Rabbi Lopian et il lui a demandé Mechila. Rabbi Lopian lui a demandé pourquoi tu me demandes Mechila, qu'est-ce que tu m'as fait? Alors, il était très ennuyé, il ne voulait pas dire, alors il a dit, mais je ne peux pas te donner si tu ne me dis pas pourquoi tu veux le pardon. Bon, avant toute chose, je dois dire que jamais Rabbi Elio Lapian, qui était un grand Baal Moussar, il en a voulu à qui que ce soit, de quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment du finour. Alors, il lui a dit, non, mais il faut que tu me dises Alors il a dit, j'ai dit du Lachonara sur le Rav. Ah, qu'est-ce que tu as dit alors? Vous pouvez vous imaginer, enfin, je ne sais pas si vous imaginez bien, mais se tenir devant Rabbi Olapian et lui dire qu'on a dit du Lachonara sur lui. Et ensuite il demande des précisions sur qu'est-ce que tu as dit sur moi. Il n'a pas voulu, il ne voulait pas répondre. Et bon, il a dit, mais je ne peux pas te pardonner si tu, si tu ne me dis pas pourquoi je dois te pardonner. Il a fini par lui dire. Alors, Amélia lui a dit, écoute, c'est vraiment effectivement très grave. Je vais réfléchir pour savoir est-ce que je peux vraiment te pardonner. Reviens dans 2 jours. Vous imaginez les 2 jours que l'élève a passé. Et quand il est revenu, alors Amélia lui a dit, écoute, j'ai bien réfléchi, c'est très difficile, mais bon, je t'ai pardonné. Donc il a voulu lui montrer que il faut prendre cette histoire-là de demander pardon au sérieux. Si on ne prend pas au sérieux. Alors, il y a une discussion entre le Rabbi Sraim d'un côté et d'autres Farshim, justement sur le problème qui se pose. Certaines fois, ça n'arrange pas les choses de dire à quelqu'un qu'on on l'a lésé, etc. Et il faut peut-être mieux ne rien dire. C'est une marloquette entre le Rav Esraïm d'un côté et d'autres décisionnaires de l'autre côté. Donc c'est une question sur laquelle il faut réfléchir. A priori, pour le commun des mortels, en général, il vaut mieux rien dire parce que les gens, ils ont beaucoup de mal, suivant ce qu'on a dit, par exemple, comme la Shonara, ou ce qu'on a, etc., que comment est-ce qu'ils peuvent pardonner, ça leur est peut-être trop difficile. Donc, à la limite, on les met dans une position impossible. Donc, ça n'arrange pas les choses. Donc, il vaut peut-être mieux ne rien dire dans ce cas-là. Ben, il fallait en amont, mais ne pas dire de la Shonara, mais on ne peut pas toujours exprimer ce qui est passé à la personne elle-même. Devant Hachem, il faut le dire, mais pas devant la personne. Donc, on a cette notion de tshuva, qui est une condition nécessaire pour que pour que ce qui a été dit comme façon de prier après la faute, ça marche finalement. Et d'ailleurs, cette idée qu'il faut un Shliach Tzibour qui récite les Shlosh Esrei Midot, c'est en fait de la spécificité de la tfila de Yom Kippour. Yom Kippour, c'est un moed, donc on a les amidot comme on les a d'habitude. Sauf que on récite les amidot. Je crois que d'après le Moussar Sfarad, on récite ça dans la totalité de Kippour, je crois qu'on récite ça en tout 26 fois. Mais comme on ne peut pas les reciter comme ça l'une après l'autre, alors entre les Shlosh Esrei Midot, il y a des pikutim, des poèmes, il y a de la prose, il y a de la poésie, il y a des louanges et des textes qui disent combien Hachem est généreux dans son pardon. Et comment ça participe, tout ça, de la royauté divine, évidemment. Donc, selon les communautés, on a ces piyutim-là et d'autres piyutim, d'autres textes, effectivement, qu'on met entre deux récitations des Shlosh Esrei Midot. Et à part ça, comme c'est un jour de Ta'anit, alors il y a une tfila supplémentaire qui est la Neila, en plus de la tfila qu'on a tous les Yamim Tovim, en fait. Ça fait Kippour, cette chose absolument incroyable, si vous voulez, ce jour d'un pardon, effectivement. Et l'idée qu'on puisse faire tchouva, c'est une idée qui est suffisamment difficile à comprendre, à intégrer, que la Gemara nous rapporte que quand David HaMelech a fauté avec Bathsheba, en fait, c'est tout à fait, c'est compliqué, puisque la faute, lui, il a pensé qu'il a fauté, mais en fait, c'était à blanc parce qu'elle était déjà divorcée, etc. Sauf que lui, il ne le savait pas. Et en fait, nos maîtres disent que toute cette histoire avec David, elle est là pour que n'importe quel individu sache que quelle que soit la faute commise, on peut toujours faire tchouva. La faute que David a commise, enfin qu'il pensait avoir commise, encore une fois, c'était pas comme ça, mais il pensait avoir commise, c'est une faute grave. Il y a eu des conséquences, même si en fait la faute n'était pas là complètement, on ne va pas maintenant discuter de ça. Et de la même manière, la même Gemara, elle dit que la faute du Vaudor, elle était là aussi. Et pour qu'on sache qu'à l'échelle du Klal, il y a une tchouva possible. Bon, donc, on a besoin d'un modèle individuel, d'un individu et le modèle de collectivité, de la collectivité Klal Israël, pour bien intégrer que c'est vrai, la tchouva, elle... Concrètement, elle existe et le pardon existe, en fait. Ce jour de Kippour, c'était un jour assez exceptionnel parce que ce pardon qui est accordé au clan d'Israël, mais il y avait toute une avoda, tout un service d'Hachem qui se faisait au Beth Amigdash, toute l'histoire avec les deux Seirim, les Douk, etc., le Seir la Azazel, des choses assez compliquées en réalité, le bouc émissaire. Et cette avoda, elle était faite par le Kohen Gadol essentiellement le jour qui court. C'est ce jour-là, il se passait beaucoup de choses, mais en particulier, il se passait que le Kohen Gadol on est ce jour-là, et seulement ce jour-là, il était seul à le faire, il entrait dans le Kodesh HaKodashim. Dans le Beth Amikdash, il y avait une partie qui s'appelle Kodesh HaKodashim, dans la partie dans laquelle il n'y avait que le Aaron, que l'Arche de l'Alliance, dans laquelle il y avait les Louchot. Et à ce moment-là, il prononçait le Shem Hashem comme nous, on ne le prononce pas, si vous voulez. Comme par tradition, on savait comment il fallait le prononcer, et donc il le prononçait une fois dans l'année, dans ce lieu tout à fait particulier, et à ce jour tout à fait particulier. Kodesh Kodashim, Yom Kippour. Et puis, en dehors de cela, il y avait beaucoup de travail, en fait, avec le vidouille que le Kohen Gadol faisait. Il faisait un vidouille pour la collectivité, pour le clan Israël. Mais pour pouvoir faire un vidouille pour la collectivité, il fallait d'abord qu'il règle ses problèmes personnels. Donc il y avait d'abord un vidouille pour lui et sa famille, ensuite un vidouille pour l'ensemble des Kohanim, et ensuite un vidouille pour la totalité du clan Israël. Un vidouille avec toute plein Voda qu'on faisait avec les deux groupes en question. Et en fait, c'est un groupe de simcha absolument extraordinaire. Selon cette simcha, elle était, si vous voulez, elle était conditionnée par la sortie du Kohen Gadol en vie du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints. Que si le Kohen Gadol ne faisait pas les choses comme elles devaient être faites, il mourait. Alors, quand il sortait en bonne santé, quoi, en quelque sorte entier, c'était une... Enfin, ça, il y avait la joie du clan Israël éclatait au point que on dit de ce jour-là que ce jour de Kippour est un jour où il y avait une simcha comme il n'y en avait pas d'autre. Il y a un deuxième jour qui est Tou B'Av, pour d'autres raisons. Deux jours, mais une simcha absolument extraordinaire dans le clan Israël. Alors, ce n'était pas toujours la simcha, parce qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, la charge de Kohen Gadol était achetée. Ça avait mal tourné, et c'était acheté, et il y avait des gens qui achetaient la charge de Kohen Gadol, en pensant que tout allait, ils pourraient faire ce qu'ils voulaient, etc. Mais en fait, ils mouraient. Ils mouraient parce qu'ils ne faisaient pas les choses comme il fallait faire, hein, fallait les faire à Kippour, et ils mouraient. Et donc, surtout à cette époque-là, on n'était pas sûr que le Kohen Gadol allait sortir vivant de l'opération en question. Donc c'était un jour de très 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 grande simcha, parce qu'évidemment, on ne peut pas imaginer une plus grande simcha que l'état dans lequel on est quand Hachem vous a pardonné. Il a pardonné individuellement et collectivement au clan Israël. Donc c'est-à-dire on s'est rapproché complètement d'Hachem. Alors évidemment que c'est un jour de simcha extraordinaire. Ce jour de simcha, en fait, c'est un jour de simcha, mais la simcha, elle était d'un type particulier. C'était une simcha qui n'avait pas d'autre expression que la parole, si vous voulez. Il y a, donc, pour nous, ça se présente Rosh Hashanah, Kippour, et il y a un troisième terme. Le troisième terme, c'est Sukkot. Qu'est-ce que Sukkot vient faire là? A priori, Sukkot, il est dans un autre cycle. Il est dans le cycle des Moadim, où il y a effectivement la mitzvah de Riyah, de monter à Yerushalayim, c'est-à-dire de Pessah, Shavuot, Sukkot. Alors c'est vrai, il est dans ce triplet-là, mais il est aussi dans le premier autre triplet, parce que, en particulier, parce que durant Sukkot, il y a un jour particulier, un jour qui s'appelle Hoshana Rabba, qui est une espèce de jour où on peut encore rattraper, espèce de jour où on peut encore rattraper ce qui n'a pas bien été fait à Kippour. Comment ça fonctionne, on ne sait pas vraiment bien. C'est construit, en général, c'est construit sur des concepts de Kabbalah. Mais bon, c'est clair que ça s'appelle l'Oshana Rabba. Et on entend bien ici cette notion de quelque chose qui est très grand, qui est un sauvetage gigantesque. De toute façon, il y a à Sukkot quelque chose de tout à fait particulier qui est que, bien que tous les Moadim, il y a une mitzvah de Simcha, à Sukkot, on dit que Sukkot, c'est Zman Spatenu. C'est-à-dire, c'est le temps de notre joie. Alors qu'on se... Il y a une Simcha aussi à Shavuot et aussi à Pessah. Mais la la joie, elle est complète, parce qu'à Sukkot, on a rentré les moissons, on a vendangé, etc. Voilà, on est plein, quelque sorte. Et donc, si vous voulez, il y a la simcha de Kippour, qui est une simcha en parole, en chant et en danse, effectivement. Et après, il y a une simcha qui est une simcha avec une composante matérielle, qui est effectivement de manger, de boire et de se réjouir aussi, mais où le corps participe aussi plus fortement qu'il ne le fait justement à Kippour. Donc c'est une simcha plus complète, si on peut parler comme ça, bien que la simcha soit considérée comme étant plus grande à Kippour qu'à Sukkot. Sukkot, c'est le temps de la simcha, et Kippour, c'est pas un temps de la simcha, mais c'était un jour de simcha où la simcha éclatait, pour les raisons qu'on a dites. Maintenant, évidemment, Yom Kippour, c'est ce jour absolument exceptionnel, un jour où les Bnei Israël, d'une certaine manière, se conduisent comme s'ils étaient un peu des anges. Puisqu'on ne mange pas, on ne boit pas, etc. On fait comme si on avait résolu les problèmes, on n'a pas vraiment besoin du côté complètement matériel. Alors, c'est vu comme des inouïs, c'est vu comme des légères difficultés, des choses un peu souffrantes. Qui nous peuvent nous faire un peu souffrir, quoi. C'est pas une partie de plaisir, a priori, de jeûner, etc. Mais, bien sûr, c'est notre contribution à... Voilà, on paye de notre personne aussi, et on se présente, effectivement, tout le monde, en général... Il y a beaucoup de blancs, il y a beaucoup de façons de faire un peu comme les anges. Bon, on n'est pas vraiment des anges, mais on fait des choses qui ressemblent. Mais c'est pour ça que Sukkot, c'est encore mieux si on peut parler comme ça. Parce que Sukkot, on est des hommes. À Sukkot, on est là avec le corps qui participe complètement, plus complètement qu'il ne le fait à Kippour, évidemment. Donc on a vraiment bien deux cycles, et le point commun, en fait, c'est Sukkot. C'est l'aboutissement à la fois de Pessah Shavuot Sukkot, de Pessah Shavuot Sukkot, et aussi l'aboutissement de Rosh Hashanah Kippour Sukkot. Et c'est la fin du cycle, si vous voulez, des Moadim de la Torah, puisque ensuite, par la suite, on aura encore Hanouka et Pourri, mais c'est pas des Moadim de la Torah. Donc on a, d'une certaine manière, cette concentration au mois de Tishri. Et on avait vu, je crois, encore avec une partie d'entre vous, qu'en réalité, ces Yamim Tovim, ils auraient dû être répartis dans toute l'année. C'est Rosh Hashanah, Kippour, etc. Et c'est parce que les Bnei Israël ont fauté que ça a été concentré sur un seul mois, le mois de Tishri, parce que c'est vrai, c'est énorme, dans un seul mois, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Mais c'est parce qu'on a fauté que c'est arrivé de cette manière-là. C'était pas, d'après ça, c'était pas initialement prévu, si vous voulez, que ça se déroule de cette manière-là, que ça se concentre de cette manière-là. On pourrait mieux le vivre, si on peut parler comme ça, si c'était réparti sur toute l'année. Si toutes ces fêtes étaient réparties sur toute l'année. Il faut. On a déjà dit beaucoup de choses, en fait. C'est un jour, évidemment, particulier. Parce que le clan d'Israël a vécu concrètement le pardon qu'Hachem lui a donné. Le clan d'Israël, ce laps de temps, après la destruction, après la d'or, jusqu'à Yom Kippour, si vous voulez. Pendant tout ce temps-là, mon cher Rabbeinu a intercédé, il est monté, d'autres disent qu'au milieu, il a monté tous les jours et redescendait. Donc, peu importe, mais ça ne marchait pas. Donc là, l'Israël a vécu une période où Hachem disait non, je ne veux pas, je veux pas de vous, quoi, finalement. Et finalement, ce que on a obtenu, c'est vrai qu'on a reçu Kippour, etc., mais tout ça, c'était, en fait, dit le Gaon, c'était un sursis. Alors, quand on reçoit, quand on a un sursis, il faut veiller à ce qu'on fait par la suite. Pas que le sursis tombe. Or, malheureusement, les Bnei Israël n'ont pas fait ce qu'il fallait pour ça. Les Bnei Israël, ils ont fauté une deuxième fois avec la faute des Meraglim. Et donc, le sursis est tombé. Et donc, cette condamnation à mort du clan d'Israël, elle s'est réalisée. C'est-à-dire, le clan d'Israël a subi une perte gigantesque, puisque on est né dans le désert, et chaque année, il y avait une tranche des hommes, parmi les hommes qui avaient vécu la sortie d'Égypte, qui avaient vécu le passage de la mer, qui avaient vécu le don de la Torah. Tous ces hommes-là, qui l'ont vécu en tant qu'adultes, tous ces gens-là vont mourir, tous, sauf Kolev et Yoshua, sauf deux. Personne d'entre eux n'entrera en Eretz Israël. C'est ça, la condamnation à mort. Elle a été effective parce que c'est tombé. Mais ils ne sont pas morts. Dans les 38 ans, ils ne sont pas morts à cause des Meraglim. Ils sont morts à cause du Vaudor. La condamnation, elle date de ce moment-là, condamnation du Vaudor. Bon, les Meraglim ont fait tomber le sursis. Alors, c'est vrai que nous, on vit Yom Kippour comme si Yom Kippour, tout était, bon, tout a été effacé. Alors, ça se dépend comment on vit un sursis. Mais eux, quand ils l'ont vécu comme si, bon, mais parfait, tout est bien maintenant. Moi, il y avait encore cette épée de Damoclès, qui était le fameux sursis sur leur tête. Et ils ne l'ont pas géré comme il fallait. Et ça a eu les conséquences que ça a eu, effectivement. C'est-à-dire, tout a été changé, puisqu'on n'est pas entré en Eretz Israël tout de suite. On a dû faire la guerre pour y entrer, etc. Et puis, justement, tous les hommes qui avaient vécu la sortie d'Égypte, etc., tous ces gens-là avaient disparu, à l'exception donc, de Kaleb et Yoshua. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a eu un Yom Kippour extraordinaire, mais il y avait quelque chose à... Ils auraient dû réfléchir, en quelque sorte, et prendre des mesures pour être sûr de ne pas fauter. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Et c'est sûr qu'il y a la difficulté qui vient de ce que, finalement, ceux qui ont causé la faute des Meraglim, c'est les chefs des tribus. Mais les chefs des tribus représentaient les tribus, représentaient le clan d'Israël. Parce que sinon, on peut se demander, mais pourquoi tout le clan d'Israël est puni? Finalement, c'est eux qui ont incité ensuite tout le monde à pleurer, à refuser de... Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que ce sont les chefs qui ont fauté principalement. Et le peuple a suivi, bon, on peut dire le peuple, il a fait poursuivre, quoi. Mais c'était pas n'importe qui. Il faut bien comprendre que les gens qui ont fauté, dans les Meraglim, c'est des gens qui ont été choisis par Hachem. C'est Hachem qui a donné la liste de ceux qui allaient être les explorateurs. Hachem avait dit à Moshe Rabbeinu, moi je ne te dis pas de les envoyer. Si tu les envoies, c'est ton initiative. Mais ensuite, Hachem qui a dit, tu en verras cela. Et donc c'est très complexe. Comment en même temps on a cette situation extraordinaire où on est sorti à Yom Kippour, voilà, la faute du Vaudor, elle est oubliée. Et puis en même temps, c'est pas vraiment complètement oublié. Et donc ça ouvre sur un petit problème qui est le suivant. C'est-à-dire, il existe dans la tchouva, il existe deux formes de tchouva. Il y a une tchouva qui est appelée tchouva mais ira, et une tchouva qui est appelée tchouva mais ahava. Une tchouva qui est une tchouva par crainte, et une tchouva qui est une tchouva par amour. La tchouva par crainte, ça peut être la crainte de la sanction, la punition, mais ça peut être aussi très haut, ça peut être aussi une tchouva par crainte révérentielle. Parce que on comprend que comment est-ce que je peux fauter devant Hachem, etc. Mais cette tchouva meira, on voit ça dans les parchutes qu'on a vu cette semaine, la semaine d'avant. On voit que la tchouva, quand elle est faite, miyira, elle n'est pas complète. Pas complète, ça veut dire la faute, elle est effacée. Bon, les conséquences, ça veut dire le compte est à zéro. Le compte est à zéro, ça veut dire, et quand le compte est à zéro, ça veut dire que je suis libre de faire de nouvelles affaires maintenant. Ce que je vais faire maintenant n'est pas obéré, n'est pas rendu ou impossible, plus difficile par le passé, en quelque sorte. Il n'y a plus de passé. On a annulé le passé. Quand le compte est à zéro. Mais quelque chose reste encore, comme s'il restait encore pas la faute, mais la trace de la faute, comme ça, une trace de la faute, une modification de la personne. Bien qu'on dise que quand on a fait tchouva, on est un autre, etc., il n'est pas complètement un autre, finalement. La vraie tchouva, c'est la tchouva me'ahava, tchouva qui est faite par amour, une tchouva qui est faite pour l'amour d'Hachem, c'est tout. Pas pour obtenir quelque chose. Et cette tchouva me'ahava, elle nous ramène aussi dans une situation absolument incompréhensible. Parce que la tchouva me'ahava, elle transforme les fautes en mérite. Donc quelqu'un qui a fait une faute, qui se trouve, disons, au 36e dessous, s'il fait tchouva me'ahava, il va se retrouver non pas à zéro, mais il va se retrouver à 36e dessus, à plus 36. Voilà, tu vois, mais il était à moins 36, il se retrouve à zéro. Et là, tu vois, mais Ava, il va se retrouver à plus 36. Ça aussi, c'est extraordinaire. C'est un tel changement que même ce qu'on a fait de travers, en quelque sorte, est aussi récupéré positivement. on peut dire c'est parce que maintenant je sais, j'ai des expériences et le Yetzirah ne pourra plus me raconter les mêmes bobards que ce qu'il me racontait avant, puisque maintenant je sais que ce n'est pas vrai. Ok, mais c'est pas seulement ça, parce que ça c'est peut-être que c'est suffisant pour dire qu'on est à zéro avec ça. Cette idée qu'on peut avoir du plus, ça c'est vraiment tout à fait exceptionnel, mais c'est ça la véritable tshuva. Alors bon, elle est... ça c'est pas tellement courant, on arrive à vraiment, mais à Hava. Mais si vous voulez, la tshuva meira, on l'entend, ce que je vous disais précédemment, que dans un contexte de jugement, un jugement, donc il y aura une sanction, etc. Alors on entend que voilà, dans ce monde de jugement, on comprend bien que la tshuva meira, on la comprend, voilà, on craint. Si la tshuva est par principe, si vous voulez, alors ça c'est bon, on parle le principe, de, voilà, c'est par amour pour Hachem, voilà comment je fais, par amour pour lui, on se comporte de cette manière-là. Donc on peut peut-être dire que la tshuva meira et la tshuva me'ahava correspondent justement à cette idée de est-ce qu'on fait tshuva parce que pour être zoché bedin en fait, ou est-ce qu'on fait tshuva par principe? Alors, la plupart du temps, on parle toujours d'être zoché bedin, etc. Parce que, comme je vous ai dit, je crois que c'est pour nous faciliter la chose. Parce que pour nous, c'est un peu difficile de faire tshuva me'ahava, de tshuva par principe, etc. Alors, les rachamim ont ajouté cette dimension de din, en fait. Même quand on dit que un zikaron, oui, bon, le zikaron est là. Ça ne veut pas encore dire qu'on va juger. On regarde. Hachem regarde, il voit, et tout est sous. Voilà, les choses sont là. Alors maintenant, si tu dis qu'il s'agit d'un jugement, parce que c'est vrai que quand on fait tshuva, on se juge soi-même. Si je juge que je dois faire tshuva, ça veut dire que j'ai jugé, que j'avais mal à... Sinon, je ne ferai pas tshuva. Alors, on peut aussi dire, on peut faire tshuva. Ce qu'on a fait, c'est pas mal, mais on aurait pu faire mieux. On peut faire mieux, alors, tshuva, parce qu'on n'a pas fait le mieux qu'on pouvait. C'est déjà autre chose que de dire, parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai fait ce qu'il fallait, on pouvait faire mieux, je l'ai pas fait. Bien sûr que la tshuva, elle sera pas la même. Sur les fautes, on a transgressé un lot assez, ou bien si on n'a pas accompli, il y avait une mitzvot à faire, on n'a pas fait. Quand on n'a pas fait une mitzvot assez, on a perdu une occasion de se rapprocher d'Hachem. Mais on n'a rien fait de mal. On n'a rien cassé. Tandis que quand on a fait une avéra, transgression d'un interdit, on a cassé quelque chose. Et du coup, ça nous a éloigné d'Hachem. Donc, il y a d'un côté, on a été éloigné d'Hachem, d'un autre côté, on n'a pas profité de l'occasion pour se rapprocher d'Hachem. On voit très bien que les deux démarches sont toujours là, présentes. Des fois, on les vit les deux, et des fois, on vit celle-là plutôt que celle-là. Donc, ce jour de Kippour, toutes ces questions-là, elles remontent en quelque sorte, elles reviennent, parce qu'on on a le temps de réfléchir. Ces Shlosh Esrei Midot, ces mesures de tendresse, la tendresse que Hachem nous manifeste, en acceptant notre tshuva, etc., elle nous oblige. Si quelqu'un manifeste de la tendresse, on est obligé de se demander ok, alors, et moi, qu'est-ce que je fais là-dedans? Pas simplement recevoir la tendresse, mais qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que j'apporte? Effectivement, quand peut se dire, évidemment, on ne peut rien donner à Hachem. N'empêche que Hachem demande, par exemple, Hachem veut notre tfila. Hachem désire, si on peut parler du désir divin, il désire la tfila des Bnei Israël. C'est une question nécessaire qu'il faille prier. C'est quelque chose qu'on sait depuis Maaseh Bereshit. Vous vous souvenez, Adam Arishon, il apparaît dans Maaseh Bereshit sous forme d'absence. Bon. Alors, il n'y a personne pour prier. Et c'est pour ça que les végétaux ne sortent pas de terre. Ils commencent à pousser à l'intérieur, en bas, en dessous terre, mais ils ne sortent pas de terre parce que personne ne prie, parce que personne ne prie pour la pluie. On a besoin de la pluie, on a besoin de demander à Hachem d'envoyer la pluie, en fait. Et il n'y a pas d'homme pour le demander, donc ça ne se fait pas. Donc Hachem attend la prière de l'homme, en fait, de l'être humain en général. Après, pour le Klal Israël, il vit. C'est la tfila, c'est Umnot Avotenu. C'est le savoir-faire de nos ancêtres. Ils savaient prier, et nous, on continue. On essaie de continuer dans cette direction-là. Prier, comprendre que se tourner vers Hachem. Hachem est toujours disponible. Il faut se tourner vers lui, c'est tout. Souvent, notre difficulté, c'est que nous voulons faire les choses par nous-mêmes et ça ne fonctionne pas, c'est pas possible. Il y a des choses où on a besoin qu'Hachem nous aide. C'est quoi un besoin qu'Hachem nous aide que tous les jours, il demande à Hachem de nous aider à faire tshuva. Alors, on dit « Rotse bi tshuva ». Alors, je me fous désir et il agrée la tchouva. Et ça, on doit demander à Hachem, aide-nous. Pourquoi il faut lui demander de nous aider? Parce qu'en fait, on ne peut pas. Si Hachem ne nous aidait pas, on ne pourrait pas. On ne pourrait pas faire tchouva. C'est Rish Lakish qui dit dans la Maseret Ketuvot, Souka, qui dit que tous les jours, le Yetzer Hara, il invente quelque chose de nouveau. Il est ultra inventif. Et donc nous, par rapport au Yetzer Hara, on est presque toujours au retard d'une guerre. On sait ce qu'il faut faire pour résister à l'épreuve précédente, mais il en invente tout le temps. Et face à quelqu'un qui invente tout le temps, à une invention permanente, on a besoin de l'aide d'Hachem. Sinon, on ne peut pas faire face. Et donc, tout ça doit se penser, si vous voulez, durant Kippour, il faut savoir, on se tourne vers Hachem, c'est si un jour où Hachem est tout à disponible, en quelque sorte, il nous donne, exprime cette tendresse, Hachem, et donc on te demande, répète clairement que tu as compris la tendresse divine. Quoi on dit c'est je serai midot de tendresse en fait. Tendresse du clan d'accord pour le clan Israël. Et c'est à ce titre-là qu'on peut s'en sortir à Yom Kippour. Parce qu'on est après la faute. Prier de cette manière-là. On peut demander ce qu'on veut, mais il faut mettre l'accent sur la tendresse divine. C'est ce qu'Hachem nous a conseillé. Comme ça va marcher. En quelque sorte, comme si Hachem disait, voilà, la clé, c'est ça. Voilà la formule qu'il faut prononcer. Et c'est un peu compliqué de voir ça comme une formule. Donc il faut essayer de comprendre que ce n'est pas seulement une formule, mais c'est un travail qu'on doit faire pour reconnaître toute cette tendresse d'Hachem. Voilà ce que je voulais dire sur, essentiellement sur Kippour. De façon transatlantique, je crois, si ça va passer. Est-ce qu'il y a une question? Je ne vois rien du tout, mais bon. Ok, alors, Gmar Khatima Tova et Chag Sameach pour la suite.
Merci,
merci Rav Shkoyer.
Khatima Tova.
Ciao. Chag Sameach.